FM 93 vous présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Oh, que c'est la grosse saison dans le monde du sport. On aime ça. En attendant le match d'ouverture du Canadien, en attendant les Remparts qui reviennent au Centre Vidéotron demain, il y a de la NBA ce soir à Montréal. C'est spécial quand même, ça. Et il y a l'ouragan Matthews qui est passé par Dallas hier soir, Austin Matthews. Mais le plus important derrière tout ça, c'est cette victoire des Red Sox sur les Yankees de mon ami Will.
It's the 1-2. Bouncing ball, gonna be a tough play. Nunez gloves, throws, and in time for the out. The Red Sox will celebrate.
OFM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 1957. J'aimerais, certains soirs, j'aimerais être célibataire et riche. J'ai ni un ni l'autre. Si j'étais célibataire et riche, en fin de semaine, j'irais à Boston. J'irais à Boston voir les Red Sox affronter les Astros à Fenway Park. Et j'irais probablement faire un détour vers Foxborough pour aller voir les Pats qui vont recevoir les Chiefs de Kansas City dimanche soir dans le match du Sunday night. Ce qui est dommage, et hier, c'était ma game d'hockey dans ma ligue de garage, puis après le match, je parlais avec mon chum Dan Arsenault. Lui, il va avec un couple d'amis et sa femme. Ce qui est dommage, c'est que Laurent Duvernay-Tardif va être opéré à Green Bay lundi et il va manquer 8 semaines. Les gens qui ont acheté d'avance leur billet pour le match de dimanche, ben ils vont y aller quand même. Mais c'est pas pareil. Laurent Duvernay-Tardif dans la NFL est devenu tellement important au Québec qu'il fait déplacer les foules dans l'est des États-Unis. Ouah, là, capote pas, Dan. C'est pas Brett Favre ou ben Peyton Manning. Non, j'ai pas dit ça. Il y a des gens de Québec et de Montréal et de partout au Québec qui ont planifié leur automne en fonction d'un match des Chiefs à Foxborough dimanche qui vient, et en fonction d'un match des Chiefs à New York contre les Jets ou les Giants, ou en fonction d'un match des Chiefs à Philadelphie pour affronter les Eagles. L'automne est planifié parce que Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs passaient dans ce coin-là. Il n'y a aucun doute pour moi. Et c'est tout à l'honneur du jeune homme qui a su impressionner pas une, pas deux, mais trois générations d'individus par ses prouesses sur le terrain de la NFL et par son bagage académique qui l'a mené à un poste de médecin. Évidemment, tout le monde attend de voir ce qui va arriver avec les Canadiens demain. Demain, ça va être le match d'ouverture contre les Kings. Là, les gens se disent, ouais, une équipe jeune, une équipe rapide, une équipe qui a bien joué contre les Leafs, qui a perdu en prolongation par contre, et une équipe qui est allée gagner à Pittsburgh. Qu'est-ce qui va arriver du Canadien dans les prochains matchs? Ben demain, c'est Los Angeles, puis samedi, c'est les Pingouins qui sont de passage. C'est encore deux bons tests. Et en attendant cet hommage aux gars qui ont gagné la Coupe Stanley en 93 avec le Canadien, mais il y a un match de hockey sur la patinoire et tout le monde a hâte de voir comment Kotkaniemi va jouer à domicile. C'est devenu la coqueluche du Canadien. Peu importe ce qu'il fait, on trouve ça bon. À part les mises en jeu où c'est un peu plus difficile, c'est normal, il n'y a pas la force physique d'un vétéran de la Ligue nationale encore. Mais c'est fascinant de voir à quel point on peut changer. Hier, nos collègues de Montréal parlaient de magie concernant le Canadien. Ils ont une victoire en deux matchs. Hier à Montréal, on parlait d'une équipe qui pourrait faire les séries. Hier à Montréal, on disait que le Canadien a bien fait de repêcher Kotkaniemi au rang 3. Ça se peut que la réponse à la fin, ce soit ça. Mais comment on peut dire ça au 10 octobre? Il y a deux matchs de jouer, le Canadien a gagné un de ces deux matchs, puis le kid a une passe. Mais déjà, à Montréal, nos amis spécialistes nous disent que le Canadien a fait un excellent choix en repêchant Kotkaniemi. Ils se basent sur quoi? Ils sont déconnectés à ce point-là? Sincèrement, là, les gens de Montréal, des fois, vous me découragez.
L'avant-match. Voici Simon Gagné.
Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, ça va bien. J'ai une pensée pour toi hier soir quand j'ai vu que les Flyers avaient perdu 8-2. Je me suis dit, oh non, pas encore un problème de goaler à Philadelphie.
Ouais, non, non, ça n'a pas été un bon début de saison, surtout à domicile. C'est leur premier leur match d'ouverture. Ils ont présenté la mascotte Gulli officielle. Puis on dirait que je pense à le déconcentrer, si on peut dire, les fans. Je pense que ça a été une soirée, je pense, qui était oubliée pour l'équipe des Flyers. Mais du côté d'Eliott, oui, ça n'a pas été son match, on peut dire, mais il y a quand même eu un bon début de saison à l'extérieur, les deux premiers matchs.
Oui, c'est ça. Tu sais, dans la Ligue nationale, jusqu'à maintenant, il y a des joueurs qui se démarquent, il y a des joueurs qui déçoivent, il y a des équipes qui se démarquent, il y a des équipes qui déçoivent, Simon. Mais faut se rappeler que sur 82 matchs, il y en a juste deux ou trois de jouer. Tu sais, je sais pas si tes souvenirs de début de saison dans la Ligue nationale, ça ressemble à quoi, mais dans quelle mesure on peut faire une règle de trois ou élaborer une tendance avec deux ou trois matchs, puis essayer de deviner si ça va se reproduire sur 10, 15 ou 20 matchs?
Oui, non, c'est impossible. Oui, tu veux avoir un début de saison. Autant en tant qu'équipe, tu veux gagner ton premier match le plus rapidement possible, même si c'est pas le premier match, au moins ton deuxième match en tant que joueur, ben on se fera pas de cachette. Puis mes meilleures saisons, je sais, c'est quand j'ai marqué mon but, soit le premier match ou le deuxième match, on dirait que ça t'enlève un poids sur les épaules. Tandis que si tu scores pas ton premier match, ton deuxième match, ton troisième match, où là, ça commence à être, ça va être à foire, puis là, t'es rendu à 5, 6, 7, t'es rendu quasiment à peut-être 9 matchs sans faire ton premier but. Mais le fait de marquer ton premier but, là, t'as pas à te casser la tête avec ça, là, t'es capable de jouer au hockey, puis performer, c'est drôle à dire, mais en tout cas, moi, c'était mon expérience. Moi, mon but, c'était d'essayer de marquer mon premier but le plus vite possible pour mettre ça derrière moi, puis être capable de respirer, puis bien jouer le hockey, je suis capable de jouer. Puis en tant qu'équipe, comme tu as dit, c'est la même chose aussi, mais en même temps, on le sait qu'il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des périodes creuses pour des équipes. Pour un joueur aussi, tu vas tomber dans une flamme, dans une séquence que tu ne marqueras pas pendant 5-6 matchs. Ça fait partie du hockey, c'est 82 matchs, c'est un marathon, mais la différence cette année, que je trouve, on a parlé la semaine passée, la semaine avant, Dan, c'est cette année, le marathon commence là, par exemple. Les équipes qui vont avoir un mauvais début de saison vont peut-être payer avec ça à la fin, puis rater les séries. Je vois beaucoup trop d'équipes qui vont se battre pour les deux dernières places là, de chaque conférence, là, la wild card, comme qu'on parle, là. Mais en même temps, c'est trop de bonheur pour dire OK, ces équipes-là vont faire les séries comme exemple le Canadien de Montréal qui ont un super de bon début de saison cette année. C'est difficile à dire s'ils vont faire ça pendant les 82 matchs.
Simon, on va revenir au Canadien tout à l'heure, mais il me passe un flash par la tête. Tu parles de début de saison, puis il y a des joueurs qui sont blessés. Il y a des joueurs qui sont blessés qui sont plus âgés. Un Joe Thornton, par exemple, un Roberto Luongo. As-tu l'impression que maintenant, dans la Ligue nationale, on dit que la Ligue appartient aux jeunes, la Ligue est de plus en plus rapide. As-tu l'impression que ça va être de plus en plus difficile pour les joueurs de 35 ans et plus?
Oui, ça va. Moi, je crois que la Ligue s'en va vraiment vers un changement, même si on le voit déjà présentement. Tu vois des joueurs qui ont 32, 33, 34 ans, 35 ans, c'est quasiment si t'es rendu à 40 ans là, dans notre temps. Là. Fait que tu vois, Thornton, tu vois, c'est encore un joueur de hockey qui a du talent, mais je l'ai regardé avant qu'il soit blessé, là. Tu vois qu'il y a un step de moins, que c'est plus dur à patiner. On dirait qu'il patine avec un piano sur le dos, mais il est tellement intelligent que la rondelle que tu sais que sur l'avantage numérique, il va faire produire ses joueurs, mais tu sais, la Ligue est tellement rapide. Puis on le voit avec l'exemple de Vegas l'année passée. T'as pas de superstar, mais t'as des gars qui patinent, qui travaillent fort. Tu le vois avec le Canadien de Montréal un petit peu en début de saison, c'est on partira pas en peur, là, mais c'est des petits gars qui embarquent sur la glace, ils patinent, ils travaillent, ils sont dans ta face. Fait que t'es capable de remplacer un gars qui a peut-être 34-35 ans, qui a une super belle carrière, qui va te coûter peut-être je sais pas, 5 millions par année par un jeune qui va arriver à 19-20 ans, qui va être prêt à faire n'importe quoi que l'entraîneur te, lui demande, puis manger les bandes, puis patiner dans le fond, puis avoir aucune conscience, on peut dire. Tu sais, si t'arrives dans la ligue, t'es tellement jeune que tu penses pas à tes enfants à maison, tu penses pas à ton après-carrière, à tes blessures, tes frais du sport, tu commences à jouer, t'as aucune blessure, puis ce jeune-là, ben tu vas le payer peut-être 600 000 par année, fait que malheureusement, c'est plate pour les joueurs qui sont rendus une plus vieille âge, si on peut dire. On va avoir de moins en moins, puis on va s'en aller vers une ligue qui va être beaucoup plus jeune, puis est-ce que ça va être là pour rester, mais je ne sais pas, mais c'est certain que moi, j'en garderai un ou deux dans mon équipe pareil, là, des vétérans, là, justement, pour pas que les jeunes partent en peur.
OK. Tu as parlé du Canadien. Tu as dit que le Canadien travaillait fort depuis le début de la saison. C'est vrai. Ils ont joué deux matchs. Ils ont gagné un de ces deux matchs. Il y a des gens qui partent en peur. Mais ça, à chaque année, il y a des gens qui partent en peur. C'est le fun. C'est la définition première d'un partisan du Canadien. Il faut juste faire attention quand on est membre des médias à Montréal pour pas trop partir en peur. Mais les auditeurs de Québec sont au courant. Je surveille de façon très étroite les médias de Montréal pour éviter qu'ils partent trop en peur. Même si des fois, je perds le contrôle et je suis pas capable de tout vérifier. C'est bon, hein? C'est bon que je fasse ça. Oui. Mais Simon, est-ce que je me trompe ou les partisans vont accepter un club qui va perdre cet hiver à Montréal? Oui, mais qui va gagner aussi des fois, là. Mais si le club travaille, les gens vont pardonner aux Canadiens.
Oui, oui. Puis je pense que tu vois déjà que les partisans sont contents avec juste ce qu'ils ont présentement. Puis gagne ou perdent, ça leur dérange pas. Autant qu'ils travaillent fort comme ça, que ça patine à tous les matchs, que les joueurs sont prêts à se sacrifier, que les gars donnent leur 100, 110% à tous les matchs, que tu vois. Carey Price, oui, c'est juste deux matchs, là, mais le langage corporel de Carey Price cette année est totalement différent de l'année passée. Il a de l'air à être content d'être devant le filet. Il a de l'énergie. Si tu vois ça de tes vétérans, puis ton gardien de but numéro un, je pense que les partisans sont prêts à n'importe quoi cette année. Puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans une ligne nationale de 82 matchs. Peut-être qu'ils vont avoir une surprise au bout de la ligne, mais au moins la barre est basse, elle est pas trop haute. Puis je pense que les partisans, je pense qu'on le voit beaucoup là à Montréal. Oui, comment je pourrais dire ça, ils sont épatés pour ça. On dirait que ça devient trop gros rapidement, mais ils sont conscients là, qu'ils ont une équipe là qui normalement ne devrait pas faire les séries.
OK, je veux te parler d'un gars qui s'appelle Kevin Shattenkirk, qui est un défenseur offensif dans la Ligue nationale. Les Rangers l'ont engagé à gros prix. Il reste 3 ans, incluant cette année, à son contrat, 6 650 000. C'est un défenseur que moi, je trouve très surévalué, même s'il y a eu quelques bonnes saisons. Demain, les Rangers, dans un virage jeunesse, on se souvient, les Rangers avaient écrit à leurs partisans pour leur dire l'hiver dernier, inquiétez-vous pas, on va échanger des joueurs que vous aimez, mais c'est pour le bien de l'organisation. Dans un virage jeunesse, l'entraîneur, M. Quinn, demain, va installer Kevin Shattenkirk sur la galerie de presse en veston-cravate en charge du popcorn et du diet Pepsi. C'est un joueur que moi, à Québec, à regarder la Ligue nationale de loin, Simon, je trouve qu'il est surévalué et des fois, certains soirs, inutile. Comment un gars comme ça a réussi à obtenir au fil des ans un aussi gros contrat?
Ben, c'est malheureusement, c'est on va avoir, ben, je peux pas dire qu'on va avoir de plus en plus des erreurs comme ça. C'est qu'il y a tellement plus de joueurs sur le marché des agents libres durant l'été que t'as juste un gros nom. Puis si je me rappelle bien, cet été-là, il y avait lui à la défense. Je pense qu'il était pas mal numéro un. Fait que les équipes se l'arrachaient. Ça a été une surenchère.
Okay.
Puis je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est malheureux de voir les équipes faire des erreurs comme ça. Oui, je suis d'accord. Peut-être les Rangers, c'est une équipe qui a beaucoup de sous, qui sont prêts à peut-être perdre des sous, mettre un gars comme ça dans les estrades ou le racheter ou l'envoyer dans les mineurs. Même si je pense qu'ils peuvent sûrement pas faire ça. Il y a sûrement une clause de non-échange ou de non-mouvement, là. Mais c'est ça. Moi, ce joueur-là, je l'ai vu connaître une grosse saison à Saint-Louis, puis là, on a commencé à parler, puis je savais même pas qu'il était dans la Ligue nationale avant ça. Là.
Ouais.
Je fais des farces.
Non, je comprends.
Là, mais,
ouais, je comprends ce que tu dis.
C'est pas à 6 millions par année. Tu sais. Fait que, c'est malheureux de voir ça, qu'il y a des GM qui, comme je l'ai dit souvent, à Philadelphie, il y avait Paul Holmgren qui nous parlait des fois. Des fois, il ne nous parlait pas avant de faire des échanges ou signer des gars. Puis à toutes les fois qu'il faisait une bonne échange, il savait informer à ses joueurs sur tel gars, comment qui est. Puis ça, c'est malheureux. Des fois, les équipes font des mouvements, ils font des signatures comme ça sans parler à leurs joueurs. Puis tu vois que c'est un joueur, peut-être en faisant ça, comme tu dis, les Rangers s'en vont d'un côté, un mouvement jeunesse. Peut-être les équipes vont appeler, dirais, peut-être nous autres nous intéresse pour les trois prochaines saisons, mais prenez une partie de son salaire. Okay. On sait que les Rangers de New York sont capables de faire ça. Fait que c'est peut-être un message qu'ils lancent aux autres GM là, dans la Ligue nationale qui est disponible.
OK. Kotkaniemi, qu'est-ce que tu as vu de lui puis qu'est-ce que tu vas faire avec lui dans les prochaines semaines?
Écoute, je vois plus de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est très positif de ce côté-là. Écoute, il est bon avec la rondelle. J'aime beaucoup de la façon qu'il patine. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est de l'air solide, de l'air pesant sur le patin, même si je trouve que tu sais, on le voit là après les interviews, après les matchs, les interviews, que ça n'a pas l'air d'être un gros bonhomme, mais il patine plus gros qu'il l'est, je pense, physiquement. En zone défensive, il est de l'air très conscient de sa zone défensive, puis connaissant Claude Julien, si tu veux jouer dans la Ligue nationale que tu as 18 ans ou 27 ans, ou tu veux jouer pour Claude Julien, il faut que tu sois capable de jouer dans les deux sens de la glace. Fait que c'est un avantage pour lui. C'est peut-être ça qui va peut-être l'aider à rester dans la Ligue nationale, je pense, cette année. Un petit point négatif là, que je vois de c'est ses mises au jeu. Ouais. Il est pas capable de gagner une mise au jeu. Il a parlé qu'il pratiquait avec Plekanec, puis tu sais, un mot sur Plekanec, je pense que ça va être son rôle cette année, malheureusement. Là, il est rendu en fin de carrière. On parlait de vieux, là, de joueurs plus âgés.
Ouais,
ouais. Je pense que ça va être un joueur qui va venir remplacer une fois de temps en temps, mais qui va aider justement ces jeunes-là durant les pratiques. Puis c'est important d'avoir un vétéran comme ça là, pour un jeune de 18 ans. Mais tu sais, en même temps, il fait toutes les bonnes choses, mais en même temps, il a rien cassé, Dan. Il a eu une passe le premier match, mais il a rien cassé. Fait que, moi, je pense que c'est la patience avec lui. Moi, je veux le voir s'améliorer de match en match. Il donne 9 matchs. Puis après ça, le Canadien prendra leur décision. Puis je pense que c'est la meilleure manière de prendre ce petit gars-là puis de l'emmener tranquillement dans la Ligue nationale. Puis c'est ça. Fait que match en match, je veux voir de l'amélioration. C'est ça, on verra par la suite là, ce qui va arriver après 9 matchs.
Parfait. Hey, parle-moi donc des Barons à Tombe 2A. Là, les matchs en concours doivent être terminés, Simon?
Oui, fini. On a fini nos 2 matchs en concours en fin de semaine. Puis là, la fin de semaine qui s'en vient, on a 2 matchs. Notre match d'ouverture à domicile à Beaupré contre les Éclaireurs, une équipe de la Rive Sud. Puis après ça, on joue dimanche. Dimanche soir, Colin, j'ai pas le nom de l'équipe.
Okay. Tu m'enverras ça. Tu m'enverras l'horaire parce que je vais aller vous voir jouer. Ouais. Là.
C'est bon, je t'envoie ça. Je pense qu'on joue à l'Arpidrome dimanche, je me trompe pas.
Oh, ça peut être bon.
Je t'envoie ça tantôt. On va essayer de commencer ça fort.
Parfait. Un gros merci, Simon.
Ça fait plaisir, Dan. Merci.
Bonne soirée. Simon Gagné, ancien joueur de la LNH, chroniqueur dans l'avant-match, évidemment, chaque mercredi.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan Pou. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
En ce moment, l'événement toujours en tête bat son plein chez Kia Lévis. Et plus que jamais, c'est le temps de passer nous voir. Avec un super rabais au comptant de 4 000 $, le prix de la Forte LX BM n'a jamais été aussi bas, à 13 145 $. De plus, obtenez un taux de financement de 0% et même l'entretien sans frais pour 2 ans sur plusieurs autres modèles. Passez nous voir chez Kia Lévis. Nous sommes ouverts même le samedi.
Le nouveau Kia Lévis.
Vos lunettes. À partir de $79. La deuxième paire à 25% de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25%.
Vous avez donc 2 paires de lunettes à partir de $138.
Le tout prêt en 1 heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumande, Kennedy-Lévis à Saint-Georges et maintenant sur 4 Bourgeois en face de la gare d'autobus.
Je vous parle des magasins Pentagone. C'est Éric Chatila et toute son équipe qui dirigent Domaine Maître, cette entreprise qui compte 48 boutiques à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. En connaissez-vous beaucoup d'entreprises québécoises qui compte 48 boutiques de linge à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Moi, j'en connais pas beaucoup. Et c'est l'endroit idéal pour magasiner les jeans chez Pentagone. Vous avez des marques comme Levi's, Buffalo, Silver, Lloyd's, Black Bull. Ils sont à peu près toutes là, les marques chez Pentagone. Et pour un gars comme moi, magasiner chez Pentagone, c'est le fun. Parce qu'on se fait pas harceler comme ailleurs, parce qu'on a l'impression que c'est un partenariat, on a l'impression que les gens qui travaillent chez Pentagone, ben, ils sont heureux de nous voir, ils veulent être amis avec nous, ils veulent sincèrement nous conseiller. Pentagone, fièrement d'ici.
Jusqu'à mercredi seulement, chez Solaris Québec Portes et Fenêtres.
Achetez vos fenêtres avec une installation et vous obtenez le triple vert au prix du double.
Vous en avez encore plus.
Pour le même prix.
Solaris Québec Portes et Fenêtres.
Depuis 45 ans.
Au 710 rue Bouvier.
Il y a la danse en ligne.
Et tout le monde à gauche. À droite. Et à gauche.
Et il y a l'assurance 100% en ligne de Desjardins.
Sélectionne ici à gauche. Là, tu cliques ici à droite. Voilà, la réclamation pour l'auto est envoyée.
Wow! De la soumission à la réclamation. Chez Desjardins Assurance, tous les services, même l'achat d'assurance auto, sont aussi offerts 100% en ligne. Certaines conditions s'appliquent.
Oh, à cette heure-ci, si vous n'avez pas encore soupé, je vous recommande Saint-Hubert. En famille, pour le familial 4 ou encore seul, c'est toujours excellent chez Saint-Hubert. L'offre actuellement des 11 rôtisseries Saint-Hubert de la grande région de Québec, Rive-Nord et Rive-Sud, c'est le familial 4, seulement au comptoir, au service à l'auto ou en livraison. C'est 29,95 au comptoir et au service à l'auto et 33,95 à la livraison. Le familial 4 chez Saint-Hubert, ça comprend deux quarts cuisses, deux quarts poitrine, 4 frites, 4 petits pains grillés, 4 sauces barbecue et la sauce chez Saint-Hubert et 4 salades de choux à votre choix, crémeuses ou vinaigrées, en plus d'un 2 litres de Coke totalement gratuit. Le Familial 4, la vedette chez Saint-Hubert, ces temps-ci, allez-y.
C'est un fait, les amoureux de pasta se donnent rendez-vous au Portofino. Des pâtes fraîches faites selon la tradition italienne. Vous vous sentirez comme à Rome, Venise ou Milan dès la première bouchée, c'est assuré. Deux restaurants pour vous régaler, Portofino Vieux-Québec et Sainte-Foy.
Bienvenue chez Capital Nissan.
C'est la grande liquidation en prolongation. Obtenez vos pneus d'hiver sans frais sur les Micra, Versa et Sentra 2018. Détails chez Capital Nissan.
Les meilleures offres à la meilleure place. C'est Capital Nissan, angle Pierre Bertrand et de la capitale.
Radiologie Maillot est déménagée et vous accueille maintenant au tout nouveau complexe Synase, situé au 1825 boulevard Henri Bourassa, local 205. C'est au coin de la 18e rue, face à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Tout a été pensé en fonction de l'acte médical et de l'expérience patient. Nouveaux espaces beaucoup plus grands et lumineux, mieux adaptés aux nouveaux équipements de dernière technologie, meilleure ergonomie des salles. Bienvenue dans le plus grand centre d'imagerie médicale au Québec. Radiologiemaillot.com.
En octobre, c'est la grande liquidation de tous nos modèles 2018 chez Levi Honda. Exemple, CR-V LX à 78 $ par semaine en location 60 mois, zéro à compte et 100 000 km inclus. Venez faire votre choix pendant qu'il est encore temps. Passez vite chez LeviHonda.com.
Allô? C'est moi, la spécialiste Daikin. Saviez-vous qu'au Québec, selon Hydro-Québec, près de 50% de notre facture énergétique est pour le chauffage? C'est énorme! C'est environ 15 fois plus que pour climatiser votre maison. Alors, optez pour une thermopompe Daikin. C'est un choix vraiment judicieux, car en plus de diminuer votre facture de chauffage, elle rend votre demeure très confortable. Pour en savoir plus, venez me rejoindre en ligne au daikinquebec.net et, en tant que spécialiste Daikin, je vais tout vous expliquer. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde.
Les chroniqueurs du Journal de Québec.
On dit que 6 mois en politique, c'est une éternité.
Parce que chaque jour, le portrait change.
Et on sait bien que vous n'avez pas le temps de tout suivre.
C'est pour ça qu'on est là.
Pour vous aider à y voir clair.
On décortique l'actualité, on l'analyse et on la commente.
On vous offre un vaste choix d'opinions.
Pas de cassette, pas de gobelins.
Juste ce qu'on pense vraiment.
Les chroniqueurs du Journal de Québec. Des idées fortes pour vous faire une idée. À lire 7 jours sur 7 sur toutes les plateformes.
Chez Honda de Giraud, la Civic est en location à partir de 0,99% et c'est votre dernière chance de profiter du boni Civic de 750 $. Honda de Giraud, toujours ouvert le samedi.
L'unique, l'irremplaçable avant-match avec Dan Pou au FM 93.
On en entend parler depuis quelques jours. Demain au Centre Bell pour l'ouverture locale du Canadien, le match contre les Kings de Los Angeles. On va revenir sur cette conquête de la Coupe Stanley d'il y a 25 ans. En 1993, le Canadien avait défait les Kings de Wayne Gretzky en 5 matchs. On va jaser de cet événement-là demain au Centre Bell avec un gars qui vit à Montréal maintenant, mais qui a vécu surtout la rivalité canadien-nordique. Pour les plus jeunes qui ne le savaient pas, ben, l'année où le Canadien a gagné la Coupe en 93, en première ronde, il est revenu de l'arrière 0-2 pour l'emporter contre les Nordiques en 6 matchs. On jase avec le descripteur de l'époque des matchs des Nordiques à la radio, Alain Crête, notre collègue de Cogeco qui est au téléphone. Salut Alain!
Salut Dan!
Comment vas-tu?
Ça va très très bien, et toi?
Merci, merci, c'est gentil.
Ça nous rajeunit pas, ça, par exemple.
Non, non, mais en même temps, c'est un souvenir. Il y en a qui disent que de faire une soirée demain, c'est comme démontrer que le Canadien a pas gagné la Coupe depuis 25 ans, puis d'autres qui sont bien contents de ça. Tu te situes à quel endroit là-dedans, toi?
Ben écoute, moi je pense que c'est de bonne guerre. Okay. C'est sûr que ça fait déjà assez longtemps que le Canadien a pas gagné de Coupe Stanley, mais il faut... Bon, le contexte est plus le même qu'à l'époque, là, puis surtout à l'époque des années 70. En plus, je sais qu'il y avait eu des initiatives dans le passé. Des joueurs avaient tenté d'organiser quelque chose l'an dernier, mais étant donné la saison du Canadien, on savait que le Canadien ne participerait pas aux séries. Il aurait fallu faire ça au mois de mars, au mois d'avril. On trouvait que le moment était mal choisi, puis c'était dans un contexte qui prêtait pas beaucoup à la fête, là.
Okay.
Ensuite de ça, Patrice Brisebois a organisé quelque chose dans le cadre du Grand Prix de Montréal au mois de juin, mais la réponse avait été assez mitigée parce que à ce moment-là, beaucoup de gars avaient des engagements ailleurs. On était au début de l'été. Alors demain, écoute, je sais pas si c'est en voyant le calendrier, on s'est dit match d'ouverture contre les Kings, c'est ouais. peut-être le bon moment. De nous rappeler la dernière conquête de la Coupe Stanley par le Canadien. Mais non, là, demain, c'est un événement organisé par le Canadien. Je pense que c'est une bonne guerre.
Oh oui.
Écoute, le timing est bon, puis tu sais, là, tu sais pas quand est-ce que le Canadien va gagner une
non.
autre.
Non, c'est ça.
C'est aussi bien d'en profiter.
Ouais, Patrick sera pas là parce qu'il dirige les Remparts. Évidemment, il y a des gens des deux côtés dans cette décision-là qui appartient à Patrick Roy. Il y en a qui disent, voyons, il aurait pu laisser coacher Martin Laperrière pour un soir puis aller au Centre Bell. Il y en a qui disent, non, il est loyal envers son équipe junior. Il dirige les Remparts puis il est rendu là maintenant. Je pense qu'il a préparé une petite vidéo pour qu'on va présenter demain au Centre Bell. Il y a Denis Savard, je lisais ça dans la chronique de Bertrand Raymond aujourd'hui. Denis Savard qui est aux prises avec des traitement de cancer qui sera pas là demain. Éric Desjardins est parti à la chasse parce que c'est un triple de chasse. Il va manquer quelques noms, mais la plupart vont être là. Est-ce que je sais que tu as été très prêt à l'époque où t'as les plus jeunes, encore une fois, je m'adresse aux plus jeunes qui écoutent mon émission ce soir, sont pas au courant de ta relation très étroite avec Jacques Demers. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Jacques? Parce que c'est comme si... C'est devenu délicat prononcer le nom de Jacques Demers dans les dernières semaines ou derniers mois, Alain, au Québec, parce que on sait qu'il va pas bien, puis on a tous peur de prendre des nouvelles. Là.
Non, mais écoute, il n'y a pas de gêne. Souvent, moi, à Montréal, les gens s'informent quand les gens me voient, ou il y en a d'autres. Là, je sais qu'il y en sont plusieurs être en contact avec Jacques, et puis il n'y a pas de gêne du tout. Il doit être là demain, d'ailleurs, Jacques, pour la cérémonie.
OK, il va être là. OK, cool.
Écoute, tu sais, pour les nouvelles, là, c'est que son état est stable. Il n'y a pas d'amélioration. Je pense que ça va être ça, là, la vie de Jacques maintenant.
Okay.
Il est en fauteuil roulant.
Oui.
Il est paralysé d'un côté. Il a de la difficulté à s'exprimer. Il a pratiquement perdu l'usage de la parole, là, à part quelques mots. Alors, il n'y a pas... Non, je pense que c'est assez connu, mais je n'ai pas de gêne à en parler.
Okay.
Écoute, il garde le moral. Ça fait un certain temps que je ne l'ai pas vu. Là. Moi, ça remonte au printemps dernier, avant le début de l'été. Et puis, il y avait un excellent moral. Et demain, la plupart des gens avec qui j'en ai parlé sont convaincus qu'il va être extrêmement heureux de se retrouver au Centre Bell dans un environnement de hockey dans le cadre d'un événement comme ça. Et moi, écoute,
on comprend qu'il va être ovationné.
Ça va être le moment fort de la cérémonie demain quand Jacques Demers va être là.
Entièrement d'accord. T'as fait les matchs des Nordiques combien d'années avec lui, Alain?
Avec Jacques, j'ai fait les matchs, ça a été 2 ans. Entre le moment où il a été congédié par les Red Wings et le moment où il a été engagé par le Canadien à Montréal.
OK. Bon, parlons-en de cette fameuse conquête de la Coupe Stanley en 93. La première ronde débute sur les chapeaux de roue pour les Nordiques. Évidemment, le but de Scott Young en prolongation. Parce que tout le monde dit, le Canadien a gagné 10 matchs de suite en prolongation, mais il faut rappeler qu'il avait perdu le premier contre les Nordiques ici au vétuste Colisée. Scott oui. Young marque en prolongation. Les Nordiques gagnent les deux premiers match. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses là, qui affirment qu'on a réveillé Patrick Roy. Qu'est-ce qui s'est passé de ton souvenir pour expliquer à quel point la série a changé de côté?
Bon, d'abord, souvenez-vous que dans le premier match, les Nordiques avaient gagné en prolongation, mais avaient marqué leur... Ça s'était terminé 2-2 après 60 minutes de jeu, et les deux buts des Nordiques avaient été marqués dans les dernières deux minutes de jeu de la troisième période, là. Et notamment, c'est Sakic, je pense, qui avait créé l'égalité, et il restait moins d'une minute à jouer en troisième quand lui a marqué. Alors, le Canadien avait dominé ce match-là, là, à Québec.
Okay.
Le deuxième avait été à l'avantage des Nordiques. Ils avaient gagné assez facilement 4 ou 5 à 1, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est arrivé, moi, je me souviendrai toujours, en arrivant à Montréal, c'est là qu'on a commencé à voir les fameuses caricatures dans le journal La Presse, les caricatures de Piget, qu'on a vu ensuite de ça à tous les jours durant le parcours du Canadien en série. Et la première de ces caricatures-là, si ma mémoire est bonne, ou une des premières, c'est Pierre Pagé, habillé en espèce de viking ou de conquérant, avec les joueurs des Nordiques derrière lui, qui s'apprêtent à envahir Montréal, et puis on les voit le piétiner les joueurs du Canadien, okay. Puis envahir okay. Montréal.
Okay.
Ça a piqué les joueurs et l'organisation du Canadien au vif. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est la veille du match numéro 3. Beaucoup de joueurs des Nordiques sont allés voir les expos au Stade Olympique.
Oh.
Et à la une du Journal de Montréal, tu avais une photo des jeunes joueurs des Nordiques à l'époque, très confiants, qui avaient beaucoup de plaisir au baseball. Et il y avait eu un titre dans le genre, là, pendant que les joueurs des Nordiques s'amusent, bien, ceux du Canadien, évidemment, trouvaient ça moins comique, eux autres, parce qu'ils perdaient 2-0 dans la série. L'autre point tournant, à mon avis, si on parle de hockey, c'est le match numéro 3. Les Nordiques prennent les devants 1-0. Et avant la fin de la première période, Matt Sundin ou Scott Young, je pense que c'est Scott Young. Matt Sundin avait marqué le premier but. Un des deux, là, en tout cas, un marque le premier but et l'autre fait un wrap-around derrière le filet de Patrick Roy qui réalise un arrêt, un déplacement de dernière minute et un arrêt in extremis avec sa jambière pour fermer l'ouverture. Parce qu'à ce moment-là, si Patrick ne fait pas l'arrêt, les Nordiques prennent les devants 2-0 après 20 minutes de jeu.
Okay.
Et moi, je pense que ça aurait changé l'allure de la série à ce moment-là.
OK. Il n'y avait pas eu un Ron Extall ou est-ce que, aide ma mémoire un peu, Alain, est-ce que Daniel Bouchard est l'entraîneur des gardiens à ce moment-là chez les
oui.
Nordiques?
Oui.
Il n'y avait
fait
pas
sa Ron déclaration où il dit qu'entre autres, ils ont découvert une faille dans le jeu de Patrick
c'est
Roy.
Ça, c'est ça.
Ouais,
c'est avait, Daniel Bouchard qui avait
aussi,
dit ça.
Ça a piqué Patrick au vif. Et puisque tu parles de Ron Extall, durant la saison régulière, Pierre Pagé avait l'habitude d'utiliser Stéphane Fizet à tous les 5 matchs à peu près.
Okay.
Il faisait jouer 4 matchs à Extall, le 5e, c'est Fizet qui jouait. Et dans la série contre le Canadien, on a remarqué qu'après le 4e match, comme c'était le cas en saison régulière, souvent Ron Extall, c'était un match difficile, le 4e. Le 4 d'affilée, c'était pas mal le maximum qu'il pouvait faire, lui.
Okay.
Et à ce moment-là, il envoyait Fizet dans... Et là, dans les séries, il l'a pas fait. Avec le résultat, souvenez-vous du match numéro 5 à Québec, c'est le match perdu en prolongation, c'est le match où Patrick avait été blessé puis avait quitté la rencontre,
oui, oui.
Et les Canadiens gagnent ce 5e match-là sur un but assez douteux accordé par Ron Extall, et arrivent à Montréal pour le match numéro 6, et si je me souviens bien, Pierre Pagé avait dit à Stéphane Fizet, « Prépare-toi, c'est toi qui joues ce soir ». Et finalement, il a changé d'idée. Et il a envoyé Ron Extall devant le filet avec le résultat qu'on connaît maintenant.
Est-ce que c'est dans cette...
Je dis pas oui? ça pour blâmer Ron Extall, par exemple.
Non,
mais
je comprends.
Mais c'était... Tu sais, en saison régulière, les Nordiques avaient eu une année extraordinaire. Et c'était la formule que Pagé avait
oui,
utilisée.
Okay.
Fizet à tous les 5 matchs, à peu près. Là.
Alain, est-ce que c'est dans cette série-là que Pierre Pagé a engueulé Matt Sundin au forum?
Oui. Oui, mais là, à la fin, tu comprends que... là, le forum est en... Écoute, tout le monde est survolté dans le forum. Ça va être la fin pour les Nordiques. et on avait tellement des attentes incroyables envers les Nordiques cette année-là. Et là, évidemment, Pierre Pagé qui se met à engueuler Matt Sundin au banc des joueurs, la caméra de la soirée du hockey qui a tout capté, qui a montré ça. Écoute, les gens ont vu Pagé, et tu sais, Pierre Pagé, quand il se fâchait à part de ça, il y avait les yeux qui sortaient de la tête. Ouais. Et puis, ça a été un moment assez... Et tu sais, quand tu revis ça maintenant, la colère de Pagé, je sais pas si c'était prémonitoire, mais quand tu regardes la façon dont les choses se sont déroulées après, tu te dis, tu sais, le chemin s'est ouvert pour le Canadien, mais il se sera ouvert pour les Nordiques, et peut-être que c'est les Nordiques qui auraient gagné la Coupe Stanley.
Exact. Évidemment, les Nordiques sont jeunes. Les Nordiques viennent de manquer les séries 58. C'est les fameux choix de repêchage de Lindros, de Nolan et de Sundin au tout premier rang du repêchage.
Mais Forsberg n'est pas avec le club encore dans ce temps-là. Là.
Forsberg n'est pas là.
En 93, Forsberg n'est pas 93, là. Forsberg arrive, lui, à la dernière année des Nordiques. Il arrive à l'automne 94, mais il y a eu un lock-out dans la Ligue nationale à l'automne 94.
Oui, c'est une demi-saison.
La saison a commencé au mois de janvier 95 et il a joué une demi-saison parce que le club a été vendu et a déménagé à Denver durant l'été 95.
Après la série perdue contre les Rangers, OK.
Exactement.
Ils sont jeunes, mais Forsberg n'est pas là, OK. Mais tu sais, il n'y a rien de mieux que des séries pour créer les rivalités. Tu sais, on parlait, Alain Côté a fait une publicité pour la CAQ récemment, puis on l'a eu en entrevue, on a jasé un peu avec lui. Son fameux but refusé au printemps 87, si ma mémoire est bonne. En 85, c'est Pétard qui marque le but pour éliminer le Canadien au Forum. Puis en 82, ça avait été Dale Hunter. Mais il n'y a rien comme des séries pour créer cette immense rivalité, Alain.
Non, parce que longtemps, quand les Nordiques ont quitté, là, à un moment donné, on s'est dit, tu sais, les Sénateurs ont commencé à avoir une bonne équipe, là, avec Alfredson, et puis il y avait Avlat, et puis il y avait Marianossa, puis il y avait Redden, puis il y avait Chris Phillips, puis Jason Spezza, puis ils ont commencé à avoir un très bon club, là, puis Chara en arrière, puis il était... Et là, on se disait, c'est peut-être avec Ottawa que la rivalité va se développer. Mais il a fallu attendre que les deux clubs s'affrontent en série pour dire que la rivalité venait de naître entre ces deux organisations-là. Souviens-toi de la série où Larcelaire se fait assommer à la ligne 2, là, avec une passe dans les patins. Tu sais, la rivalité a commencé là, là. Là, c'est là que les deux clubs, les deux organisations ont commencé à s'haïr et à se détester.
Mais ça n'a jamais été Québec-Nordique. Et Québec-Canadien.
Non, ça n'a jamais été Québec-Nordique parce que ensuite de ça, les deux organisations, les deux clubs ont commencé à avoir pas mal moins de succès sur la patinoire.
C'est ça.
Fait que là, ils sont moins affrontés en séries éliminatoires. Je pense qu'ils sont affrontés une fois après ça et le Canadien a gagné la série. Mais ça a été pas mal tout par la suite. Et l'autre chose, c'est que t'avais pas le degré d'émotion que t'avais dans une série entre le Canadien et les Nordiques.
Ouais.
Écoute, série, là, puis moi, je travaille avec des gars qui jouaient avec le Canadien dans le temps, là. Puis les gars, ils sont rentrés, là, le lundi matin à pratique, là. Puis on savait qu'on jouait contre les Nordiques le samedi soir, là, on pensait juste à ça. Là.
Ah ouais.
Puis là, le coach, là, puis Pat Burns, puis Jacques Demers, n'arrêtait pas de nous dire, écoutez, là, on joue demain contre telle équipe, on joue jeudi contre tel club. Mais nous autres, dans notre tête, là, c'était samedi contre les Nordiques. C'est la seule affaire à laquelle on pensait. T'avais Michel Bergeron puis Jacques Lemaire à une certaine époque derrière le banc des deux clubs. Moi, je me souviendrai toujours de cette manchette du Journal de Québec à quelques jours d'un affrontement canadien-nordique. C'était marqué « Canadien-nordique, la guerre du silence, 6 pages ». Oui, j'avais dit à Albert, une chance que personne parle.
Ouais.
Ça aurait été quoi?
6 pages.
Et c'était ça, là.
Non, oui.
Le Canadien arrivait à Québec et puis là, t'avais la horde de journalistes montréalais qui débarquaient en ville. C'était la même chose quand les Nordiques jouaient au Forum. Ben là, c'était tous les journalistes de Québec qui se déplaçaient pour... Tu sais, on parle beaucoup de Toronto, puis on parle beaucoup de Boston, mais il y a jamais...
Non.
Moi, là, depuis que je suis ici, j'ai jamais rien vu qui approchait même la rivalité canadien-nordique.
Et Alain, le seul œil au beurre noir de cette rivalité-là, c'est le Vendredi Saint?
Le Vendredi Saint, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, t'as commencé à avoir un build-up, là, et même moi, j'ai vu des accrochages entre des journalistes et des membres de l'organisation adverse.
Okay.
S'engueuler et s'inviter à s'offrir des claques sur la gueule, sur la galerie de la presse, là. Là, c'était rendu, à un moment donné, là, et là, ça a éclaté le soir du Vendredi Saint. Le bouchon a sauté, là. Mais, tu sais, c'est pour te montrer. Écoute, dans le temps, là, moi, je me souviendrai, t'avais un match à Québec le 23 décembre et les deux clubs s'affrontaient à Montréal le 31 décembre. De quoi tu penses que les gens parlaient dans le temps des fêtes? Ça parlait juste de ça. Ça parlait juste de Canadiens nordiques. Puis imagine-toi le 31 décembre, là, toutes les familles sont réunies pour le party de la nouvelle année. T'as du hockey, t'as un match Canadien nordique, là, puis après ça, t'écoutes le bye-bye, puis tout le monde s'engueule. Tu sais, t'as plus ça maintenant, là. Les choses ont changé. Le Canadien part le 15 décembre, puis revient à Montréal le 8 janvier, puis il va jouer dans l'Ouest, puis, tu sais, c'est plus, là. Les choses ont beaucoup changé. C'est pour ça que, à moins que les Nordiques reviennent un jour dans la Ligue nationale, t'auras jamais une rivalité comme celle-là, à mon avis, là, que ce soit avec Ottawa, Boston.
Mais Alain, même s'ils revenaient, ce serait jamais ce que vous avez vécu à l'époque.
Probablement. Probablement que, effectivement, ça serait différent. Mais moi, je pense que ça prendrait pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres, par exemple.
OK. On aurait tous les ingrédients pour...
Souvenez-vous, la première fois que les Nordiques ont affronté le Canadien au Forum, ça se passait en 1979, première année dans la Ligue nationale, les joueurs des Nordiques sautent sur la glace pour la première période et ils reçoivent une ovation debout de la part des 17-18 000 personnes réunies au Forum de Montréal.
Et bon. C'est...
Non, écoute, là, au début, là, c'était ça. Évidemment, les choses ont changé. Ouais. Là. Mais ce qui a changé les choses, c'est le but d'Elanter.
Oui,
quand
Elanter
a compté en prolongation en série, là, la rivalité, c'est là que la rivalité a commencé.
Ben d'accord. Un gros merci, Alain.
Fait plaisir.
À bientôt. Alain Crête, animateur à RDS, évidemment, ancien descripteur des matchs des Nordiques. On fait une fête demain au Centre Bell pour souligner le 25e anniversaire de la Coupe Stanley du Canadien gagnée en 93 contre les Kings. Mais il faut savoir que dans cette série-là, dans ce printemps-là, la première ronde opposait le Canadien aux Nordiques. Les Nordiques menaient 2-0. Le Canadien est revenu pour l'emporter en 6, évidemment grâce à Patrick Roy.
À Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h, au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Vos lunettes, à partir de $79. La deuxième paire à 25% de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25%.
Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de $138.
Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumande, Kennedy-Lévis, à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois, en face de la gare d'autobus.
Honda de Giroux, d'abord, c'est un concessionnaire auto situé à Montmagny. Toujours important de souligner que c'est toujours, toujours, toujours ouvert le samedi. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Honda de Giroux recevra, dans les prochains jours, des Ridgeline. Des Ridgeline 2019. J'en ai conduit un pendant quelques mois, un Ridgeline 2017. Le mien, c'est un Black Edition. Quand j'arrivais aux Lumières, les gens autour de moi arrêtaient ce qu'ils faisaient. Ils lâchaient leur texto, dans le fond. Tout le monde est sur le cellulaire, à la lumière. Ils se retournaient, ils regardaient le camion, mais ils disaient « Hein? C'est quoi ça? » Ben oui, c'est un Ridgeline de chez Honda de Giroux. Moi, je conduisais le Black Edition 2017. Ils vont en avoir dans les prochaines semaines des Sports, des Touring et des Black Edition 2019. HondaDeGiroux.com. Honda de Giroux, toujours ouvert le samedi à Montmagny.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à L'Ophélia, côté mer. L'Ophélia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viandes, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir L'Ophélia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor rappelant un yacht de luxe, embarquez à bord de L'Ophélia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservé dès maintenant. À L'Ophélia, sur Grande Allée.
C'est l'automne. Protégez votre véhicule contre la rouille dès maintenant. Prenez rendez-vous sur antirouille.com. Antirouille métropolitain. Grouille avant que ça rouille.
Vous perdez vos cheveux? Ils s'amincissent sans cesse et vous croyez que c'est inévitable?
C'est faux! Grâce à l'expertise du Salon Ross, vous pouvez défier votre génétique. Salon Ross vous propose des solutions médicales efficaces, comme la thérapie laser et des soins capillaires préventifs qui ont fait leur preuve. Prenez en charge votre perte de cheveux. Appelez-les pour une évaluation et établir votre programme personnalisé.
Salon Ross, membre Capilia.
Déjouez la génétique. Arrêtez de vous soucier de perdre vos cheveux.
SalonRoss.ca.
Nous sommes fiers de vous annoncer qu'un grand nombre de véhicules Mazda ont été nommés meilleurs achats de leur catégorie par le Guide de l'Auto et l'annuel automobile 2019.
ils ont reçu rien de moins que 9 récompenses. Et nous sommes fiers de vous offrir 0% au financement à l'achat, ainsi que des pneus d'hiver sans frais. Vous allez être fiers d'en profiter. C'est le temps de passer à mieux. Passez à Mazda, le choix des critiques automobiles. Jusqu'au 31 octobre, modèle 9 sélectionné, des conditions s'appliquent. Détails chez vos concessionnaires Mazda.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine, conçue sur mesure, selon vos goûts. En confiant votre projet à Simard Cuisine et Salle de bain, votre rêve est plus accessible que vous le croyez. Découvrez l'expérience Simard. Visitez leur salle de montre du 325 rue Marais.
C'est l'événement toujours en tête chez Kia Beauport. Obtenez le Sorento 2019 à partir de 25 895 et le Sportage 2019 à partir de 25 995 Venez nous visiter dans notre toute nouvelle concession.
Kia Beauport, je t'adore!
Un ami m'appelle pour dîner? On va à l'atelier. J'ai quelque chose à fêter? Je vais à l'atelier. C'est pas compliqué. Je suis toujours rendu à l'atelier. Vous faites quoi mercredi? Moi, je profite du jazz et huîtres de l'atelier. Dès 17h, on s'installe bien confortablement. C'est ambiance trio jazz et on profite des fameuses huîtres de l'atelier à 1$. C'est tellement parfait. Vous comprenez pourquoi je suis toujours rendu à l'atelier. Le bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
Pourquoi vous faire mourir à pelleter? Pensez Abri CBI, le leader à Québec pour un garage de toile, portique, passage standard ou sur mesure. Pensez Abri CBI pour la location d'un abri d'hiver. Financement disponible, pensez abricbi.com.
Le dimanche 14 octobre, le marathon SSQ de Québec se déroulera pour une première fois dans les rues de Québec. Il y aura d'importantes modifications à la circulation. Consultez l'outil Info Circulation disponible au ville.quebec.qc.ca/marathon. Un message de la Ville de Québec.
Pour votre entreprise de déneigement, ça prend du solide. Comme les chargeuses compactes sur pneus de toute nouvelle génération Case Construction, disponibles chez Longus. Elles assurent force et puissance inégalées, de même que la vitesse de déplacement la plus rapide de l'industrie. De plus, grâce à ses performances supérieures, ayez l'esprit tranquille durant toute la saison hivernale. Communiquez dès maintenant avec Longus, votre concessionnaire Case Construction au Québec, ou visitez terrapro.ca et devenez le maître du déneigement.
Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com.
Flash pub. Flash pub.
C'est la foire du bâton à l'entrepôt du hockey et Hockey Expert. Sauvez les taxes sur les bâtons à prix régulier dans les deux entrepôts du hockey et Hockey Expert à Saint-Romuald.
C'est la référence sportive à Québec. L'avant-match avec Dan Pou. En semaine de 18h à 19h au FM 93.
Vous le savez, depuis quelques années, on parle d'un retour du baseball à Montréal. Mais ce soir, il y a un match en concours de basket. Les Nets qui affrontent les Raptors au Centre Bell. Et ça ramène ou ça lance le projet d'une concession NBA à Montréal. Et là, vous allez dire, Dan, attends au 17 octobre. Pour fumer, c'est pas encore légal. Ben non, c'est pas moi qui ai fumé. J'ai juste pris la manchette et je vous la partage en onde. Et comme je suis pas un spécialiste, ben on va parler avec un spécialiste. C'est Will Archambault qu'on joue au téléphone. Il est analyste des matchs à RDS. Salut Will.
Salut Dan.
Will, est-ce que c'est de la foutaise de penser que la NBA pourrait s'installer un jour à Montréal?
Je pense pas que c'est de la foutaise, surtout avec ce qui a été annoncé à 2h cet après-midi. On a quand même beaucoup d'intérêt d'investisseurs montréalais d'amener une franchise à Montréal. Fait que d'après moi, la vague est là, l'intérêt est là, les Raptors performent à Toronto, on a beaucoup de personnes qui aiment le basket en général, c'est le temps d'avoir une franchise à Montréal.
Mais toi, tu as joué au basket aux États-Unis, ça fait longtemps que tu es dans le basket. Est-ce que tu peux en vouloir à nos auditeurs ce soir qui écoutent mon émission et qui entendent parler quasiment pour la première fois de leur vie d'un projet d'NBA à Montréal?
Ben regarde, ça se peut. Puis les gens de Québec le savent que c'est difficile d'attirer une franchise professionnelle dans une ville. On le voit avec ce qui se passe un peu avec les Nordiques 2.0.
Exact.
Mais à Montréal, je te dirais, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais là, le fait, comme je mentionnais, que les Raptors sont solides, on a beaucoup plus d'intérêt du basket en général au Canada. On a une population très diverse qui aime les sports autres que le hockey. Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver une façon de combler ce besoin-là et rentrer une franchise de la NBA à Montréal, c'est une des façons.
OK. Le problème, c'est que la NBA n'a pas de projet d'expansion pour l'instant, c'est ça?
Exactement. Ils veulent rester à 30 équipes pour l'instant.
OK. Les gens d'affaires qui ont fait la présentation à 14h aujourd'hui, non seulement ils sont solides, mais eux promettent qu'il n'y aura pas d'argent public. C'est sûr que ça, ça influence beaucoup dans l'équation.
Assurément. Mais tu sais, ils peuvent dire une chose, mais tu le sais, du jour au lendemain, ça peut changer. Ouais. C'est sûr qu'on est vraiment dans la phase embryonnaire dans le projet actuellement. Mais le fait qu'eux autres, ils veulent avoir seulement des investisseurs privés dans ça, je pense que le public, en général, la population, va être plus heureuse de cette façon-là. Mais encore une fois, d'après moi, on peut pas fermer la porte sur le fait que le gouvernement pourrait peut-être investir là-dedans.
OK. Vous allez présenter à compter, je pense, la fin octobre, des matchs à la télé, à RDS, de la NBA. Est-ce que tu sens plus d'engouement des jeunes? Nous, à Québec, ça joue au basket, évidemment. Ça jouait à l'époque où j'étais au secondaire, mais ça joue encore plus maintenant. Je sens un engouement grandissant pour le basket dans la région de Québec. C'est la même chose à Montréal. J'imagine encore pire, probablement.
Ah, c'est sûr et certain, là. Puis juste le fait qu'on a eu Canada contre Brésil à Laval il n'y a pas longtemps. On a eu Duke University, la meilleure université aux États-Unis qui a visité Laval pour jouer contre McGill. Peut-être tu le vois qu'il y a de l'intérêt à Montréal, là. Fait que c'est sûr et certain que nous autres, en tant que partisans, on est heureux de voir ça. Et aussi, ça met le spotlight sur Montréal et ça peut juste amener du positif à la ville.
OK. Chris Boucher est rendu dans l'organisation des Raptors. C'est un gars qui a grandi, si ma mémoire fait pas défaut, dans le coin du lac Saint-Jean. Il a joué avec Oregon. Tu me corrigeras si j'ai pas la bonne université.
Mais exact.
Par contre, à sa dernière année universitaire, il a été blessé. Donc, ça a fait en sorte qu'il a jamais été repêché. Est-ce que c'est un joueur établi dans la NBA maintenant?
Jusqu'à maintenant, non. Ça fait ça va être sa deuxième saison en tant que professionnel.
OK.
Regarde, Chris a commencé à jouer au basket. Alors, je peux pas vraiment dire l'âge exact. Mais très tard dans sa carrière comparativement à d'autres joueurs de basket.
Okay.
Alors, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il a encore beaucoup de potentiel à développer. Il a le talent, il est athlétique, il est long, il est 6 pieds 10, il fait du 3 points. Il a un bon quotient intellectuel de basket. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on pourrait dire 14e, 15e joueur pour les Raptors. C'est une position très difficile pour lui de rentrer puis d'initier un contrat puis rester là à temps plein. D'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'il va jouer dans le G League, la ligue, on pourrait dire, en dessous de la NBA.
Oui.
Puis si jamais il y a des blessures du côté des Raptors, il va pouvoir remonter. Mais on sait jamais. Tu regarde, on peut parler de hockey, là, Kotkaniemi, lui, tout le monde pensait qu'il allait être renvoyé au Rocket de Laval.
Oui.
Puis là, il est juste devant moi au Centre Bell, là, je le vois, je vais aller y parler tantôt.
Okay.
Il va lui poser la question s'il est intéressé. Mais lui, il a performé et il a percé les rangs. Du Canadien. Ça peut être la même affaire avec Chris Joseph.
OK. Chris Boucher.
Chris Boucher. Excuse.
Will, parle-moi de la NBA qui s'amène dans un match hors concours. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les Blue Jays qui jouent des matchs hors concours à Montréal?
Oui et non. Oui, parce que c'est une équipe professionnelle qui vient faire un match hors saison à Montréal. Et non, parce qu'on n'a pas d'équipe. On n'a jamais eu d'équipe de basket de la NBA à Montréal. On le sait, on a déjà eu les expos. Les partisans, ils savent quoi s'attendre.
Ouais.
Tandis que le basket, on ne sait pas à quoi vraiment s'attendre la foule et les partisans du basket en général.
OK, parfait. Dernier point, les Raptors l'année dernière, un revers contre les Cavaliers en 4 matchs. L'entraîneur de l'année qui est congédié, il y a bien des partisans de basket qui n'ont pas compris ça. Tu t'attends à quoi pour la suite des choses chez les Raptors?
Masai Ujiri, le directeur général, président des opérations pour les Raptors, a décidé de prendre le risque d'aller chercher Kawhi Leonard. Okay? Kawhi Leonard, c'est un joueur qui restait 1 an à son contrat pour DeMar DeRozan, qui en restait 3.
Ouais.
Lui, ce qu'il s'est dit, c'est regarde, les Raptors sont statu quo où, oui, on monte depuis quelques années. Par contre, on ne peut jamais percer le plus haut que, je sais pas moi, les finales de la conférence. Fait que là, lui, ce qu'il s'est dit, c'est regarde, on y va all-in cette année.
Okay.
On va signer, on va aller chercher Kawhi Leonard pour une période de 1 an. On va lui donner un contrat pour cette période-là. Puis par la suite, si lui, il voit que les Raptors vaut la peine de re-signer avec lui l'année prochaine, il va le faire. Mais là, ce qu'on veut, c'est que les Raptors se rendent en finale de la NBA. On a le potentiel. Et comme je disais, Masai, il est allé all-in cette année.
Parce que DeRozan était très aimé du public.
Ah, il l'était. Puis quand tu compares, par exemple, les deux joueurs, Kawhi Leonard, il est très, très, très efficace à l'attaque. On le sait que DeMar DeRozan pouvait marquer environ 27 points par game, comme Kawhi. Par contre, ce que Kawhi apporte à cette équipe-là, c'est le fait que c'est un joueur défensif. Il est plus efficace que DeRozan en termes de tir réussi par tir lancé.
Okay.
Et aussi, il est 100% business. On va pas le voir distrait d'une autre façon qu'un autre joueur. Je dis pas que DeRozan était distrait, mais il y a certains joueurs dans NBA, des étoiles, qui sont distraits une fois de temps en temps. Lui, c'est 100% business, 100% basket.
OK. Et il faut ajouter qu'il n'y a pas un seul partisan des Raptors qui va se plaindre du fait que LeBron James est rendu dans la conférence de l'Ouest. Hein?
Du tout. Ça ouvre la porte. Par contre, on a des équipes, check Boston. Boston a des extrêmement bons joueurs. On avait Gordon Hayward et Kyrie Irving qui n'a pas joué pendant les séries éliminatoires. Ça veut dire que ces deux joueurs-là vont être là cette année. Alors, ça va être un affrontement très, difficile pour les Raptors au courant de la saison. Moi, je te dirais que ça va être l'équipe que les Raptors vont devoir passer pour se rendre en finale, en général. Et aussi, faut pas oublier les Sixers de Philadelphie. Ils ont quand même un très bon groupe de jeunes joueurs, un bon noyau avec Ben Simmons, Joel Embiid et Markelle Fultz.
Parfait. Un gros merci, Will. Très apprécié. Bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir, Dan.
À bientôt.
Bye.
Will Archambault, l'analyste basket pour la NBA. Je vous rappelle que Will est un ancien coéquipier de Stephen Curry dans les rangs universitaires américains. Il y a un match hors concours ce soir. Les Nets de Brooklyn qui affrontent les Raptors au Centre Bell. Il y a des gens d'affaires cet après-midi qui ont proposé un projet pour amener le basketball à Montréal. C'est tout pour l'émission de ce soir. Émission d'avant-match numéro 1957. On se rapproche lentement mais sûrement de la 2000e. J'espère que l'émission vous a plu. Évidemment, Alain Crête et Simon Gagné et Will Archambault, on avait un line-up pour répondre à vos attentes. On sera là demain, évidemment, avec Éric Lavigne, comme on le fait chaque jeudi dans l'avant-match. Moi, je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93, ça me parle.